C'est l'air de quoi, cher client ? Et oui, voici venue l'heure des abeilles. Alexei est aux platines. Et toujours content de son numéro de comique, il a choisi aujourd'hui d'incarner un autre animal. Après le crapaud, après le têtard, il s'est métamorphosé en œuf. Oh, j'entends déjà les commentaires, mais je ne vous laisserai pas la parole. Un œuf n'est pas un animal, blablabla. Bla bla. Et puis d'abord un œuf de quoi ? L'œuf ou la poule, etc., etc. On n'en sortira jamais. Chacun son truc, chacun ses lapins. Si vous croyez que c'est juste avec des mots et chacun son petit chez soi qu'on va pouvoir se mettre d'accord sur tout ça, vous vous méprenez. Autant jeter une pièce en l'air et le faire régulièrement pour avoir des alternances. Mettons tous les 6 mois. Hop, c'est pile. Et l'œuf n'est plus la poule. Hop, c'est face. Et la poule descend bien de l'œuf. Etc, etc. Bref, à part la science, personne ne peut trancher. Heureusement, on a la science. Et la science, ce n'est pas du guignol. D'ailleurs, elle me dit qu'avec Alexei jouant l'œuf, à moins qu'il ne casse la coquille de son petit bec animé par la curiosité de découvrir ce qu'il y a derrière la vitre de la cabine de DJ de Radio Grand Miel, là, nous ne l'entendrons pas du tout de l'émission. Les pans, rectifiez l'acrobate. Non mais oh, les rebelles, je sais comment les soigner moi, par le baillon, mais passons. Je vous avais délaissé l'autre jour dans les jardins de l'Evrocher, vers le musée Soutine, près du parc aux biches. Mais après, en partant, j'ai rencontré, par le plus grand des hasards, une sommité de l'horticulture, le botaniste Stephen Burness. Il y a bien longtemps que je désirais une merveilleuse plante, qui s'appelle le Silphium albiflorum. En vain, je l'avais demandé partout, aux marchands, aux collectionneurs, aux muséums, aux jardins du Luxembourg. En vain, je l'avais réclamé de l'Angleterre, de l'Amérique, de la Belgique, et même, donc, à ce botaniste de Genève, passionné et charmant, Stephen Burness, qui cultive, dans ses curieux jardins de plein de malais, plein palais, pardon, tout ce que la flore universelle peut donner de plantes révélatrices de beauté. Comme je me désolais de l'inutilité de mes recherches, c'est alors que j'ai fait sa rencontre lors de notre émission précédente dans les jardins de l'Evrocher de l'autre fois. « Je connais un bonhomme qui l'a peut-être, votre plante, » me fit-il. « Un spécialiste et expert des Silphium albiflorum. »« Silphium albiflorum, » m'esclaffai-je. J'étais tellement content de corriger un tel expert en pâquerette que cela m'échappa. Je rougissais et faisais mine basse. J'avais un instant oublié son aversion pour les L. C'était connu, il ne supportait pas la lettre L, ni en minuscule, ni en majuscule. Sa biographie était très claire là-dessus, je l'avais maintes fois parcouru. « C'est un original très amusant », reprit-il sans sourciller, me signifiant là son pardon à mon écart, mais aussi sa volonté de faire un effort de distinction. La conversation devait lui apparaître derrière un peu d'intérêt. « Un fameux jardinier », continua-t-il, « et dont la coquetterie est de posséder des fleurs que personne ne possède. Il en a, paraît-il, d'extraordinaire. Allez le voir de mes parts. J'ai des actions dans sa firme, par la bourse. Il habite la forêt de Rolbounier et, par une prédestination singulière, son nom est René Fossanto. Il est aussi docteur, professeur, expert en dégâts des eaux. En résumé, c'est un crack. S'il n'a pas votre silphinium, revenez me voir et je vous apprendrai à planter des oignons.
Nion, murmurai-je. Mais il était déjà loin, pressé sûrement par quelque affaire de maraîchage ou de pépinière, ou préoccupé sans doute par ses hybridations en variétés fruitières.
Il m'avait pourtant tout de même laissé son Twitter, @stephen.burness. Ainsi, après quelques tweets, il décida lui-même de m'accompagner. Il me fixa rendez-vous devant l'entrée de la société du docteur Fossanto. Le lendemain, j'y étais. Mais avant d'arriver à la grille, il fallait au préalable traverser cette grande forêt, la dernière, la célèbre forêt de Rolbounier. Un endroit qu'on qualifiait à l'époque de zone vraiment sauvage. J'avais pris soin de me faire accompagner par 2 travailleurs détachés, habitués à ce genre de lieu. Mais quelle ne fut pas ma surprise.
in i hederna. Jag kommer idag, för jag vill bli en del av dig, Borås, Borås. I postorderskor och Algots kostym gör jag entré i stora stan, Borås, Borås. Ja, jag vill vakna upp i stan som aldrig sover. Där blir jag kung för en kväll. Kvällen är min. På Broadways estrad var jag nummer ett. Men det är här som jag vill slå, Borås, Borås. För om jag lyckas här finns inga mer besvär. Då har jag allt, Borås, Borås. Borås, Borås. Ja, jag vill vakna upp i stan som aldrig sover. Där blir jag kung för en kväll. Bara. Kvällen är min.
Bara. Min är den kväll när jag gör vad jag vill.
På Broadway's estrad.
L'allée où nous marchions était bordée de pêchers, de cerisiers, de cognassiers, d'amandiers, les uns nains, selon des formes bizarres, les autres libres, en touffes et poussant dans tous les sens, leurs longues branches chargées de fleurs. Je remarquai aussi un arbre admirable qu'on appelle le poirier à feuilles de bouleau. Il s'élevait en pyramide parfaitement droite et, de la base très large au sommet en cône pointue, il était tellement couvert de fleurs qu'on ne voyait ni ses feuilles, ni ses branches. D'innombrables pétales ne cessaient de se détacher, alors que d'autres s'ouvraient, et ils voletaient autour de la pyramide, et ils tombaient lentement sur les allées et les pelouses qu'ils couvraient d'une blancheur de neige. L'air, au loin, s'imprégnait de subtiles odeurs d'églantine et de réséda, aux feuillages velus, aux grandes panicules plumeuses de fleurs blanches poudrées de soufre. C'était à chaque pas une joie nouvelle, une surprise des yeux qui me faisait pousser des cris d'admiration. Ici, une vigne dont j'avais remarqué, dans les montagnes de l'Aname, les feuilles blondes irrégulièrement échancrées et dentelées, aussi échancrées, aussi larges que les feuilles du ricin, enlacées de ses ventouses un immense arbre mort, montées jusqu'au faîte du branchage et, de là, retombées en cataracte, en avalanche, protégeant toute une flore d'ombre qui s'épanouissait à la base entre les nefs, les colonnades et les niches formées par ces sarments croulants. Là, un stéphanandre exhibait son feuillage paradoxal, précieusement ouvré comme un cloisonné, et dont je m'émerveillais qu'il passa par toutes sortes de colorations, depuis le verpan jusqu'au bleu d'acier, le rose tendre jusqu'au barbare, le jaune clair jusqu'à l'ocre brun. Tout près,
un groupe de viburnums gigantesques, aussi hauts que des chênes, agités de grosses boules neigeuses à la pointe de chaque rameau. Arbres, arbustes, massifs, plantes isolées et groupées, il semblait tout d'abord qu'ils eussent poussé là au hasard du germe, sans méthode, sans culture. Erreur. L'emplacement de chaque végétal avait été laborieusement étudié et choisi. Soit pour que les couleurs et les formes se complétassent, se fissent mieux valoir l'une par l'autre, soit pour ménager des plans, des fuites aériennes, des perspectives florales et multiplier les sensations en combinant les décors. Oui, tout ceci avec la simple volonté de la nature, avec pour seul caprice la vie. La plus humble des fleurs, de même que l'arbre le plus géant, concourait, par sa position même, à une harmonie inflexible, à un ensemble d'art dont l'effet était d'autant plus émouvant qu'il ne sentait ni le travail géométrique, ni l'effort décoratif. Sur les pentes douces, semées en guise de gazon, d'aspérules odorantes et de crucianelles, des pivoines, des champs de pivoines arborescentes déroulés de somptueux tapis. Près de nous, il y en avait d'isolés qui nous tendaient d'immenses calices rouges, noirs, cuivrés, orangés. D'autres, idéalement purs, offraient les plus virginales nuances du rose et du blanc. Réunis en foule chatoyante, ou bien solitaires au bord de l'allée, méditatives au pied des arbres, amoureuses le long des massifs. Les pivoines étaient bien réellement les fées, les reines miraculeuses de ce miraculeux jardin. Des arbustes de rêve ou de folie, des fusains bleus, des houx aux violentes panachures, des magnolias gaufrés, frisés, des cèdres qui s'ébouriffaient comme des chevelures, des aralias et de hautes graminées, des eulalies géantes dont les feuilles en ruban retombent et ondulent, pareilles à des peaux de serpents lamées d'or. C'étaient aussi des essences tropicales, des arbres inconnus sur le tronc desquels se balançaient d'impures orchidées. Le banyan de l'Inde qui s'enracine dans le sol par ses branches multipliantes, d'immenses musas et, sous l'abri de leurs feuilles, des fleurs comme des insectes, comme des oiseaux, tels le férique strelitzia, dont les pétales jaunes sont des ailes, qu'anime un vol perpétuel. Et tout autour de nous, et tout autour de moi, qui s'éloignait du chemin d'autoroute, était comme une pluie rose, mauve et blanche, un fourmillement nuancé, une palpitation carnée, lactée, nacrée, et si tendre et si changeante qu'il est impossible d'en rendre, avec des mots, la douceur infinie et le charme inexprimablement édénique.
Une levrette, un soir, passa sur le trottoir, un beau chien policier, boulevard Rochefort. Je vais m'en dire de dire qu'il ne pouvait pas se sentir, car Mirza, tu le sais pas, lui échappa. J'adore ta babine, Azor, j'adore tes babines, Azor, j'aime ton poids soyeux, ton air malheureux, tes bons yeux si bleus, qui pleurent tape. J'adore tes canines, Azor, ton nez et tes narines, Azor, mais bien mieux que ta tête, je suis ma conquête, c'est toi de l'offrette, pas que en trompette.
Thank you.
un petit noir qui me met comme toi, le cœur aux abats. Wah, 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 wah.
Enfin, je parvins à l'orée de la forêt, enfin, du macadam familier. En lettres d'or peintes, au-dessus de l'entrée, son nom s'étalait. Fossanto, dernier fils, avec des majuscules à dernier et à fils. Stephen Burness était déjà là depuis longtemps. Arrivé par son hélicoptère à turbine, quel progrès, il m'attendait adossé à la grille magnétique entre les deux miradors. On n'entre pas comme ça chez le docteur Fossanto, comme on entre chez Daudet et ses moulins à farine. Il mit ses deux orbites dans un lecteur rétinien, laser Shera, et la porte s'ouvrit. Je trouvai le docteur Fossanto dans son clos. C'était un jeune homme mou, qui sortait des mines, l'école bien sûr, vous aviez cerné, très blanc de peau, très rouge de cheveux, et qui, en manche de chemise, sa tête couverte d'un chapeau de paille en forme de tente, qu'il avait lui-même tricoté au Fac Lab les dimanches après-midi de sa triste enfance, il passait des ondes générées par son iPhone RX Full HD devant un hibiscus. « Je crois que ça y est !» nous dit-il en nous apercevant. « Cette fois, je le tiens, le gredin !» Comme je paraissais intrigué par cet accueil, le professeur Fossanto m'expliqua. « Voilà, moi, je n'aime pas les plantes qui font des blagues. Seulement, je suis aussi Roskel, et je les embête. Savez-vous ce que je viens de faire? Je viens d'onder un hibiscus. L'hibiscus déteste la musique. Eh bien, je lui joue des ondes. Juste au moment de la pollinisation. Ça l'embête, ça le dérange, ça le met en rage, ça lui fait perdre la boule, et il va se germer de travers. » C'est-à-dire qu'il va me donner des graines d'où sortira une espèce de monstre cocasse, qui sera un hibiscus sans en être un, qui sera une plante comme on n'en a jamais vu. Je le félicitai vivement de ce procédé de culture et lui expliquai le but de ma visite. « Moi, je n'ai pas ça », me répondit le jeune geek. « Ou du moins, je ne sais pas si je l'ai, car j'ai un tas de plantes dont je ne sais pas le nom. Mais j'ai autre chose de bien plus curieux que tous vos sylphiums. C'est le concombre fugitif. » Je vais vous le montrer. Et il nous engagea à le suivre. L'enclos était vaste, divisé en carrés rectilignes. Autour, j'entendais le cliquetis métallique d'un champ de barbelés électrifié. Du matériel d'époque, moins actuel que les petits xixi qui filtraient des miradors animés par de gros yeux robotiques. Jamais, même dans un jardin monégasque, je ne vis pareil ordre. Les plates-bandes, les planches, les allées, bien rajeunies par des pulvérisateurs automatiques ou par un léger coup d'un humble lance-flammes, offrait l'indescriptible spectacle de plantes alignées les unes sur les autres, au point qu'il était impossible de les reconnaître. Et tout cela disputant aux herbes folles, brûlées, cramées, roussies, jonchant la terre dure, le peu de fraîcheur resté dans le sol, brûlé par le soleil. « Ah, vous allez rire !» nous dit l'ingénieur. « Encore une baisse de QI et l'intelligence artificielle aura rattrapé l'homme !»« Certes, mais pas la femme, me dis-je au plus profond de moi-même. » Il s'arrêta devant une planche, se baissa, écarta quelques tiges séchées de phlox. C'est là, fit-il. Ah, c'est un concombre impayable, que le concombre fugitif. À le voir, il n'a rien de particulier, mais dès qu'on veut le prendre, il fiche le camp, il s'en va au diable, impossible de le manier. Stephen Burness me dit alors à voix basse. Mon bon ami, je vais vous laisser pour aujourd'hui, vous êtes entre deux mains, je file. Je ne veux pas l'importuner dans sa recherche. Saluez-le de mes parts. Vous me tweeterez la fin de cette histoire. À bientôt. Et là, idem à l'évrocher, à peine je me retourne, et hop, vaporisé. Stephen disparut tel un courant d'air. Notre ingénieux chercheur cherchait toujours, à travers les lacis des tiges jaunies qu'il écartait d'une main brutale. Mais je ne le vois pas, cet animal. Où est-il? Il est à se balader, bien sûr. C'est toujours la même chose. Quand on vient pour le voir, il n'est jamais là. En se tournant vers moi, il me dit « Est-ce curieux tout de même, un concombre? Attendons un peu, il ne va pas tarder à revenir. » Je ne sais si ce jeune diplômé était véritablement fou ou s'il voulait me mystifier, et je me disposais à interrompre ma visite quand, tout à coup, l'innovant innovateur, se précipitant à plat ventre dans la planche de fleurs, cria « Ah, gredin! Ah, misérable !» Et je vis sa main d'albâtre, cherchant à étreindre quelque chose qui fuyait devant elle, quelque chose de long, de rond et de vert qui ressemblait, en effet, à un concombre et qui, sautant à petits bonds, insaisissable et diabolique, disparut, soudain, derrière une touffe.
Je partais vite de chez ce docteur du malheur et j'allais de ce pas avec mon clavier envoyer un tweet à Stephen Burness pour lui expliquer la fin de ma visite chez l'ingénieux ingénieur Fausanto, dernier fils, et c'est tant mieux. Mes porteurs avaient déserté et je me trouvais seul à marcher, comme à l'aller, dans ce dernier lieu sauvage, la forêt de Rans-le-Bourbier. Le soleil gagnait l'ouest et l'ombre, se déplaçant avec le soleil, s'allonger maintenant sur l'herbe. Les pelouses devenaient d'un vert plus vif. Une sorte de buée rose et or montait des massifs arrosés et les fleurs s'irradiaient, plus lumineuses, semblables à de petits astres multicolores dans le firmament de verdure. Un oiseau tout jeune, portant dans son bec une longue brindille de coton, réintégra son nid caché au fond des feuillages. Un chat noir, qui sortait des massifs vins, l'échine arquée et la queue battante, se frottait en ronronnant contre moi. Je le caressais doucement. Puis le chat, ayant aperçu un scarabée, s'allongea derrière une touffe d'herbe et, l'oreille aux écoutes, les prunelles ardentes, il se mit à suivre, dans l'air, le vol capricieux de l'insecte. Les iris dressés hors de l'eau, leurs longues tiges portant des fleurs extraordinaires, aux pétales colorés comme les vieux vases de grès, précieux émaux violacés, noirs de velours, quelques-uns, immenses et crispés,
ressemblaient à des caractères kabbalistiques. Les nymphéas étalaient sur l'eau dorée leurs grosses fleurs épanouies qui me firent l'effet de têtes coupées et flottantes. Je restai quelques minutes, penché sur la balustrade d'un pont, à regarder l'eau, silencieusement. Une carpe énorme, dont on ne voyait que le mufle d'or, dormait sous une feuille, et les cyprins, entre les typhas et les joncs, passaient, pareils à des pensées rouges, dans le cerveau d'une femme. Ça y était au platine. C'était les abeilles.